Oui, vous êtes sur les ondes de choc.ca. Marie-Ève au micro pour vous souhaiter la bienvenue à cette édition du 17 juin 2021 des Apatrides Anonymes. Sortez tambours et trompettes, chers auditeurs et auditrices, parce qu'on célèbre aujourd'hui rien de moins que notre 50e émission.
Bravo!
Ouais. Bravo! Ouais.
Yeah. Qui l'a cru au début, hein?
Donc, vous aurez compris que Mathieu et Simon sont avec moi en studio.
Salut Marie-Ève.
Salut à vous deux.
Bonsoir à vous deux.
Ça fait maintenant un peu plus de 2 ans, donc, qu'on vous offre un tour des actualités nationales et internationales sur les questions d'immigration, de racisme, de paranoïa sécuritaire, mais aussi sur les luttes et les mobilisations qui entourent ces enjeux-là. Donc, pour souligner cette 50e émission, on vous propose aujourd'hui un contenu un peu spécial, non pas des nouvelles fraîches de fraîche date, ce sera pour notre prochain rendez-vous, mais un retour sur les moments forts, les moments qui nous ont marqués ces 2 dernières années, des personnalités qui ont fait l'actualité, des invités qu'on a reçus à l'émission, des luttes qui nous ont inspirés, des enjeux, pays ou régions incontournables et d'autres surprises. Et aussi parce que, bon, 2 ans en 1 heure, c'est un peu court. Mmh. On sera avec vous pour les prochaines 90 minutes.
Yeah.
Plein de grandes premières aujourd'hui.
Oui, voilà.
50.
Donc, on se retrouve de l'autre côté d'un court pont musical avec Mathieu et Simon pour relancer cette rétrospective. On commence donc avec une question qui est au cœur de la ligne éditoriale de notre émission.
La France?
Non, ça c'est au cœur de ma mission.
Ah, okay. La police?
Tu t'approches, Mathieu. Donc, le racisme, qu'il soit systémique ou ordinaire, le racisme est en tout cas de plus en plus décomplexé, peu importe où on se trouve sur la planète. Le racisme a donné lieu à de nombreux événements tragiques, dont évidemment l'assassinat policier de George Floyd en mai 2020. Qui a entraîné une vague sans précédent quand même de protestations à travers le monde, mais aussi et une prise de conscience du racisme anti-noir en Amérique du Nord plus particulièrement, mais aussi un début de remise en question de la police, comme tu y faisais référence, Mathieu. Donc, on a vu des campagnes pour le définancement de la police naître dans plusieurs villes aux États-Unis, mais aussi au Canada, dont à Vancouver, Toronto et Montréal. Et on a d'ailleurs reçu en studio Jessica Quijano de la Coalition montréalaise pour le définancement de la police en décembre 2020. Et pour une fois, ces campagnes-là ont entraîné des changements concrets. Aux États-Unis, il y a les villes de New York, Los Angeles, San Francisco, Minneapolis et Austin même, qui ont adopté des motions pour réduire le budget de la police et octroyer ces sommes-là à des initiatives communautaires, mais aussi pour revoir le rôle de la police, notamment lors d'interventions impliquant des personnes en situation de crise. Le Canada, par exemple, lui, est légèrement à la traîne, si on peut dire. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais...
Bien, c'est ce que certains chroniqueurs disent, que c'est une mode à importer les États-Unis.
Ah oui,
enfin,
oui,
évidemment. Oui, puis d'une codère, il ne veut pas.
Non. Non, bien, c'est ça, tu sais, il y a la Ville de Toronto qui a rejeté en juin 2020 une proposition de diminution de 10 % du budget de sa police. Puis à la fin juillet, le Conseil de Ville de Toronto, lui, a adopté un amendement visant à retirer des mains de la police les urgences sociales en santé mentale. Quant à la Ville de Montréal, le budget qui avait été adopté au début du mois de décembre 2020 pour 2021 prévoyait une augmentation plutôt qu'une diminution, augmentation de 14,6 millions de dollars pour atteindre la coquette somme de 680 millions. La mairesse Valérie Plante tergiverse sur la question. La Fraternité des policiers puis le SPVM, on vous en a parlé, déchirent leur chemise sur la place publique. Et comme tu le dis si bien, Mathieu, Denis Coderre, lui, ben, mousse sa campagne électorale en répétant ad nauseam sur toutes les tribunes que s'il est élu, pas question de réduire le budget du SPVM. Ben, il y a juste la police de Longueuil qui vient d'opérer un virage dit communautaire. On verra.
On a déjà entendu ça dans le passé.
Oui, me semble. Donc, toutes ces initiatives-là, moi, ce que ça me fait dire, c'est que, bon, c'est peut-être un petit pas dans la bonne direction, mais elles ne remettent pas fondamentalement en question le rôle du bras armé de l'État, parce que c'est ce dont il s'agit. Et on est franchement loin de l'abolition de la police.
Oui, madame. Très, très loin.
Toi, Mathieu, ton enjeu...
Mon enjeu sur le racisme, ben...
Ah non, c'était Simon.
Oui, c'est ça.
Excusez-moi. Voilà. Excusez-moi.
Envoyez dans l'ordre, s'il vous plaît.
Oui. C'est en droite ligne avec ce que tu dis, en fait, parce que moi, c'est le racisme systémique comme concept, flou pour certains, plus concret pour d'autres.
Le mot en RS.
Oui, c'est ça. Donc, ben, c'est un peu la joke des deux dernières années, en fait, depuis que la CAQ est au pouvoir, ce refus obstiné. Grotesque, je dirais, de ne pas reconnaître l'existence du racisme systémique au Québec, de ne pas reconnaître le concept même, qu'on dit que c'est un débat sémantique. Ça, c'est le gouvernement de François Legault avec une ligne de parti très dure. Il n'y a personne à la CAQ, aucun ministre, aucun député qui a le droit de prononcer l'expression que tu disais là, en RS. Ligne de parti semblable chez les autres partis nationalistes identitaires, donc au Bloc ou au Parti québécois, dont le chef actuel reconnaissait le racisme systémique avant d'être élu chef du PQ, donc il a opéré une genre de petite pirouette à 180 degrés, volontaire ou non, on ne sait pas. Donc, selon la CAQ, le Québec est la seule juridiction en Amérique du Nord où il n'y a pas de racisme systémique. Magie. On en prend peut-être moins, mais on en prend soin.
Oui.
Toujours les mêmes réponses de Legault quand il se fait questionner sur le racisme systémique. On partira pas de débat sémantique. C'est pas vrai que tous les Québécois sont racistes, comme s'ils étaient pas assez intelligents pour faire la différence entre systémique et systématique. Sinon, beaucoup de Blancs très fragiles qui, aussitôt qu'on mentionne racisme systémique, vont parler de racisme anti-Blanc ou de Québec bashing. Puis on va dire, ben, on n'est pas plus raciste qu'ailleurs en admettant ainsi qu'on l'est. Mm. Avec cette attitude de déni de la réalité, on n'avancera pas beaucoup sur ces questions-là dans les prochaines années, surtout quand on nomme l'ancien négationniste en chef du profilage racial au SPVM comme responsable des affaires autochtones. Maintenant, Mathieu, à toi la parole.
Oui, tu parles de Petit Yann.
Petit Yann, c'est ça.
Moi, c'est le traitement des personnes migrantes au Québec et surtout au Canada. C'est du racisme systémique et historique, on pourrait dire. Avant ou pendant la pandémie, on continue à les contrôler, à les refuser, à les détenir, à les expulser, à discriminer les personnes migrantes au Canada et évidemment au Québec par le fait même. Mm. Quelques rappels, évidemment, dans les derniers mois, hein, on a couvert ça beaucoup. La saga du chemin Roxham, qui est un peu en dormance actuellement en raison des mesures quand même draconiennes aux frontières. D'ailleurs, il y a un recours qui a été lancé par une association d'avocats pour contester le fait que les personnes, même les personnes pour le parrainage, par exemple, ou qui
puissent pas arriver
au Canada. Ouais. L'entente sur les tiers payés sûrs, c'est vraiment une honte. Le fédéral continue à défendre bec et ongles devant les tribunaux. La Cour fédérale l'a invalidé. Et en avril, la Cour d'appel fédérale l'a renversé pour donner raison au gouvernement. On s'en va en Cour suprême encore une fois avec ça. Les exactions de l'Agence des services frontaliers du Canada, la séparation des familles, on en a parlé ici à l'émission, la détention et les mauvais traitements des personnes détenues, l'utilisation de plus en plus fréquente et banale des bracelets électroniques, on en a parlé récemment, la reprise des expulsions depuis novembre dernier, malgré la situation pandémique mondiale. Il y a quand même eu la grève la faim des détenus de Laval au printemps 2020 pour se protéger du virus et ils ont gagné en partie leur point, mais là, la prison est de nouveau remplie. Les anges gardiens au Québec, écoute, on pourrait parler de Legault et du racisme systémique, c'est effrayant. Le refus de donner un statut à des gens qui ont travaillé tellement fort et qui ont mis leur vie en danger.
Même des gens qui ont pogné la COVID.
Il y en a qui sont morts, évidemment, puis on a donné le statut à leur famille. C'est un peu c'est comme ça. Hein? Mais le fédéral aussi a trop tardé à imposer des conditions sévères. Et justement, cette semaine, il y a un monsieur qui s'appelle Jatinder Singh qui a été expulsé, qui est un travailleur essentiel du camionnage, mais quand même qui a été expulsé en Inde, malgré la situation en Inde catastrophique. Et en terminant, ben, le scandaleux cafouillage des dossiers de résidence permanente. Marie-Ève, t'en as parlé souvent.
Oui.
C'est autant le Québec que le Canada. Ça n'a pas de
qui se renvoie
bon
la
sens,
balle.
Ah, non, c'est avant la pandémie, mais pire depuis la pandémie. Et le programme des travailleurs étrangers temporaires, archaïque, c'est de l'exploitation éhontée. Beaucoup ont attrapé la COVID et en sont morts, et en Ontario en particulier.
Oui, particulièrement chez les travailleurs agricoles.
Agricoles, c'est ça. Et les serres de messe récemment, quoi dire de plus là-dessus? Scandale. Scandale. Et puis, c'est du racisme pur et dur, parce que c'est vraiment dans les politiques et dans les mesures quotidiennes par rapport aux personnes qui viennent d'ailleurs.
Oui, effectivement. Puis qui mettent en danger la vie des gens.
ces politiques-là. Oui, tout à fait. Oui. Puis qui sont là pour faire des choses essentielles au Canada en plus, souvent.
En voyant, c'est une bonne illustration. Les fermes de mers, on voyait, c'était clair. On voyait comment étaient organisés les dortoirs, tout ça. Puis on, ben oui, on peut pogner la COVID comme ça, c'est ça.
Oui, puis on respecte les normes fédérales du programme. Mm. Oui, c'est ça. Fait que, ben c'est ça, Marie-Ève.
Année faste, année au pluriel, la faste en termes de racisme.
Il y aurait eu plein d'autres
Canada.
Choses. Hein? Ben oui, évidemment, c'est ça.
Bon, on va prendre une petite pause musicale déjà. Hein? Cette semaine, chacun de nous a choisi une pièce que qu'on a déjà fait jouer à l'émission, mais qui nous a marqué. Alors, Mathieu, tu nous présentes ton choix?
Ben oui, ben ça va nous introduire à la prochaine section en plus. C'est Public Enemy, les légendaires classiques musiciens de Long Island, New York. C'est le remix 2020 de Fight the Power, qui est un de leurs grands classiques.
Yeah.
Sorti en 89 sur la bande sonore de quel film?
Ah, je m'en rappelle plus.
Do the Right Thing de Spike Lee.
Spike Lee,
et qui est sorti sur l'album Fear of a Black Planet après. Toujours l'idée par Chuck D et Flavor Flav. Et mais là, dans ce remix-là, il y a plein d'autres MC, il y a plein d'autres chanteurs. Et ils ont réactualisé le texte avec George Floyd, tout ce qui est arrivé, Breonna Taylor, etc. Ouais. Donc, on nomme différentes personnes. Fait que, mais Simon, est-ce qu'on écoute ça?
Oui, on peut y aller.
On peut y aller?
Ben oui, pince sur le piton.
Parfait.
The year is 2020, the number. Another summer, get down. Sound of the funky drummer. Music ain't the heart, cause I know you got soul.
The information age got them seeing what's really wrong with these racist days. I honor the strong and pity the weak. Your thoughts run your life, be careful what you think. Haiti beat France in century 17. Salute Toussaint and Dessalines. And I do love France, know what I mean? It's a system I'm talking, nobody's agreeing. They say it's suicide when dead bodies are swinging. Cowards are hunting black men, that's what I'm seeing. How many toasters have been burnt down? And once Central Park was a thriving black town. Yo, Chuck, I'm fighting the power right now. Thanks to you, Flav and P.E. putting it down. Putting your life on the line so I can rap now. The next generation still singing Fight the Power.
Fight the power. Fight the power. Fight the power.
Police think they Wayne, sick nine over the law. Yeah. Wanna give us short sticks, but we really need a long. To the boys in the hood, got some bullets and batons. From boys in the hood, triple K's on the arm. Four fingers on my palm, screaming fight, fight. Change the policy, defund, buy back our property. Yeah. You love Black Panther, but not Fred Hampton. Word to the Howards and the Aggies and the Hamptons. Yeah. They book us, won't book us, I'm Booker. T. Washington, George Hill, 420. Think about it, that's 2,000 pennies. The value black life, the cost of going to Wendy's for a four-quarter burger. Ended in murder. Fight for Breonna and the pain of her mama. Gotta fight.
Fight the power. 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 We got the fight the power.
Yeah, generations is how long we've been at war. The revolution on our platform. You break a man's mind and it's back. Your solidarity is what I'm wearing all black for. For comrades who don't fought without me. It's not to try and change our thoughts about me or to redirect your reports about me. Dear white people, you should take a course about me. Cause is it the long, elongated four-finger ring? The sciences of the arts, the songs we can sing. I really wanna know why y'all so scared. Probably cause the promised land, we almost there. But look, I think of images that fuel my youth. Interviews by Craig Hodges and Abdul Raouf. Examples like Olympic black power salutes and panther truths. I saw as I pursued my truth. If racism is a cancer, black thoughts the answer. Gotta get up off the back porch. Emancipate your mind. Get your body back from ransom. And all black hands up for the anthem.
Yo, yo, check this out, man.
Bring that beat back,
bring
man.
Bring that beat back.
Two, three, four, hit it.
People stronger than this evil, smashing your power structure, melanin Royal Rico. System designed to kill and unprotect. Worldwide hit the streets just to get some respect. Our fight and our rights for freedom will never waver. Justice Breonna Taylor, salute Chuck and Flavor. Feel the same anger since Radio Raheem died. Black power to the people, push forward pride.
fight the power like it's an octo. Born to fight, I made it off the block though. Thought he had a gun and he was black, that's the combo. The police killed George having a convo. They killed Malcolm X, they killed Dr. King. They gave us guns and dope, they wanna stop a king. Trying to erase our history, stop and think. History class ain't tell us about Juneteenth. Cops don't give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a key, bro. Living life on welfare. The last one who cared was Obamacare. Round 12, nose kinda bloody, gotta keep fighting. Trump through the North Korea, they respect violence. If you ain't trying to have your city on fire, put some respect on our name, we come from gold and diamonds.
Fight the power. Fight the power. Fight the power. We've got to fight the powers that be. Elvis was a hero the most, but he never meant to me. You see, straight up racist, the sucker was simple and plain.
Give in, John Wayne.
Cause I'm black and I'm proud, I'm ready, I'm hyper, I'm amped. Most of my heroes on a piano stamp. Sample all the back, you look and find nothing but rating for 400 years if you check.
Don't worry, be happy.
Was a number one jam. Damn if I said you could slap me right here. Get it.
Let's get this party started right.
Right on. Come on, what we got to say?
Yeah.
How do the people know the lay? Make everybody see in order to fight the powers that be.
Power to the people.
Yeah.
Vous écoutez toujours les Apatrides Anonymes sur les ondes de choc.ca. On poursuit notre édition spéciale 50e anniversaire. Ben,
Marie-Ève a 50
50e
ans.
50e émission.
On a commencé au mois de mars 2019.
Voilà, c'est oui. Ça. Alors, on se tourne maintenant vers les personnalités marquantes des deux dernières années. Et on va commencer avec Mathieu. Quel est ton... Tu as jeté ton dévolu sur...
Bien, sur Black Lives Matter, justement, le lien avec Public Enemy. Donc,
tout est tellement fluide dans cette émission.
Ah, écoute, on a une réalisatrice extraordinaire. Donc, et le déboulonnage de statut, parce que c'est ça qui a été le symbole et qui est allé un petit peu partout dans le monde. Donc, depuis un an, le mouvement donc Black Lives Matter, qui existait depuis quelques années, il faut le savoir, aux États-Unis, un peu au Canada, un petit peu dans d'autres pays aussi, est devenu un symbole de solidarité internationale et s'est répandu à différents endroits dans le monde, comme le Brésil et la Belgique, quand même. Hein? Son action la plus visible est le déboulonnage populaire ou dans des manifestations de statut comme celle des généraux sudistes aux États-Unis, des esclavagistes en Grande-Bretagne, de Léopold II en Belgique, de Johnny McDonald un peu partout au Canada. Il faut noter que la plupart des statues et autres symboles racistes ont été enlevés par les autorités, par les pouvoirs publics eux-mêmes sous la pression du mouvement aussi. La plupart n'ont pas été enlevés de force. Là. Ça a été souvent... On a peur qu'elles soient enlevées, fait qu'on va le faire.
On veut pas les abîmer aussi. Hein.
Ben,
parce
voilà.
que quand ça tombe, des fois la tête aussi se sépare. Hein.
Justement, je m'en viens à la tête, Simon. Anecdote savoureuse récente, la tête de Ryerson, l'université à Toronto, l'un des architectes des pensionnats autochtones, dont la statue a été jetée à terre récemment à Toronto, a été retrouvée plantée sur un pic au camp de Land Back Lane à Caledonia cette semaine. Je vais vous parler de Caledonia tantôt. Donc, elle a été transportée sur un territoire contesté, revendiqué par les Autochtones. Toute peinte en rouge et verte. Là. C'est assez drôle. Vous irez voir les photos sur le web. Cette semaine, on l'a retrouvée là, la tête de Ryerson.
C'est juste la tête qui était sur un pic?
Sur un pic.
Comme pendant la Révolution
exactement,
française.
Exactement. Okay. Ben, c'est parce que le reste de la statue est restée à Toronto. C'est ça qui est arrivé. Donc, en terminant, Black Lives Matter remportera-t-il le prix Nobel de la paix en octobre prochain?
Ah oui, c'est vrai.
Ils sont en lice parmi des centaines, mais donc... Voilà.
Et toi, Simon?
Ben moi, je suis allé un peu moins loin dans le temps. Je dirais, ben, je suis allé avec les communautés asiatiques, en particulier à Montréal, qui ont démontré beaucoup de résilience, je trouvais, durant la pandémie, avec une forte augmentation des actes violents et haineux à leur endroit. C'est sûr qu'avoir Trump qui mentionnait constamment le « Chinese virus », ça n'a pas dû aider beaucoup. Donc, vandalisme dans des commerces du quartier chinois et ailleurs, pagodes bouddhistes vandalisées à coups de masse à Côte-des-Neiges et dans Rosemont, les fameux lions sur Saint-Laurent devant les grandes portes tagués avec des insultes, des tombes brisées, des graffitis haineux sur des commerces, des agressions comme cette jeune femme dans le métro de Montréal, peut-être vous vous rappelez, qui a eu le courage de filmer. C'était un peu crève-cœur. Elle disait que suite à l'agression dont elle a été victime, il n'y a personne qui est allé la voir pour lui demander si c'était correct, pour la réconforter, et qu'elle disait qu'elle s'était jamais sentie aussi seule de toute sa vie. Un homme asiatique attaqué au couteau dans NDJ, un autre au poivre de Cayenne dans le plateau, à chaque fois pour aucun autre motif que l'origine asiatique. Donc voilà, il y a un mouvement qui s'est formé, des voix qui sont levées pour nommer le racisme anti-asiatique, le dénoncer. Il y a eu des manifestations, toutes sortes de pressions politiques. Il y a eu des alliances avec Black Lives Matter, justement. Donc, une belle solidarité entre les deux causes. Il y a eu des groupes d'entraide qui sont constitués. Donc, voilà, je voulais souligner cette prise de parole importante des différentes communautés asiatiques. Ça faisait chaud au cœur de voir tous ces jeunes qui ont décidé que c'était assez et qui ont mis le point sur la table. Juste très rapidement, autre dossier que je voulais souligner, le quartier chinois qui est menacé par le développement immobilier. Il y a des promoteurs, en fait surtout un groupe immobilier en particulier, Hill Park Capital, qui a acheté des pans complets du quartier pour en faire des condos de luxe. Le quartier chinois, c'est encore un quartier populaire qui a une vie culturelle et communautaire très importante, qui pourrait pas survivre à la gentrification telle qu'on la voit dans plusieurs autres quartiers de Montréal. Donc pour ce dossier-là aussi, il y a une belle mobilisation des communautés asiatiques de Montréal et je voulais souligner, puis je vais essayer de m'informer plus pour encourager.
On recevra quelqu'un à l'émission.
Oui, éventuellement, c'est ça, parce que quand même, une des missions des apatrides, c'est aussi de donner une voix.
C'est ça, puis les personnes plus directement impliquées sont mieux placées que nous pour en parler.
Ben merci, Simon. Très bon choix à vous deux. Pour ma part, j'ai sélectionné deux personnes qui arrivent ex aequo parce que j'arrivais pas à choisir. D'abord, Cédric Héroux, cet agriculteur de la vallée de la Roya en France qui avait aidé, en fait, là, en nourrissant et en hébergeant plusieurs personnes migrantes qui avaient traversé la frontière italienne. Le 31 mars dernier, il y a une décision de la Cour de cassation qui a mis fin à une saga longue de 5 ans qui avait commencé en 2017 avec une condamnation à une amende, puis ensuite à 3 mois de prison en appel. Cette longue procédure-là qu'on pourrait qualifier, que j'ai déjà qualifié d'ailleurs sur ces ondes d'acharnement judiciaire, ça a été 3 procès, 11 gardes à vue, 5 perquisitions.
C'est fou, hein?
Une saisie du Conseil constitutionnel qui avait consacré en 2018 le principe de fraternité. Et pour mon second choix, c'est arrêté sur la jeune Allemande Carola Rackett, qui est la capitaine du Sea-Watch 3, un des bateaux de sauvetage qui vient en aide aux personnes migrantes en détresse dans la Méditerranée. Elle est plus connue pour avoir forcé le blocus italien en juin 2019, à la suite de quoi elle a été arrêtée et poursuivie en justice, notamment pour aide à l'immigration clandestine, avant qu'une juge italienne l'invalide le 2 juillet 2019 les 2 chefs d'arrestation de résistance avec violence envers un navire de guerre et obstruction à la force publique. La juge avait estimé que le décret italien de Matteo Salvini
n'est
pas applicable, entre guillemets, aux actions de sauvetage. Le combat de ces deux personnes-là me semble important parce qu'il met en lumière l'hypocrisie des États dont la législation fait de la non-assistance à personne en danger une infraction pénale, tout en sanctionnant un soi-disant délit de solidarité. Et ce choix-là se veut aussi une sorte d'hommage à toutes les personnes de l'ombre qui viennent en aide aux personnes migrantes qui vivent dans des situations de grande précarité. Par exemple, j'aurais pu aussi choisir Solidarité sans frontières ici, qui fait un travail d'accompagnement et de soutien depuis des années et dont le fonds de soutien est destiné aux personnes sans statut qui subissent de plein fouet les conséquences économiques de la pandémie de COVID-19 a été vraiment exemplaire cette année. Donc, voilà, moi, c'est un hommage aux personnes de l'ombre.
Oui, qui deviennent, dans certains cas, quasiment des vedettes médiatiques parce qu'ils se font réprimer, hein, parce que Cédric Héroux, normalement, on l'aurait pas connu, là.
Non, c'est ça.
Ben, c'est leur seul salaire, en réalité, parce qu'ils consacrent leur vie pour les autres.
Ouais.
C'est vraiment des héros, là, je pense. Là.
C'est des traits, c'est des justes, comme on disait.
Des justices,
à notre époque, des justes.
Alors, on va prendre une petite pause musicale et on vous revient après avec les pays ou régions qui ont particulièrement attiré notre attention. Alors, pays ou région marquante sur le globe de ces deux années sur les ondes de choc.ca. Mathieu, tu veux bien commencer?
Ah, je commence, hein? Oui,
yes,
madame.
Tu brises la glace.
OK. Je vais commencer avec un gros méchant. C'est-à-dire le dirigeant de la Hongrie, une honte européenne. Viktor Orban, on en a parlé souvent, et son parti nationaliste conservateur, le Fidesz, qui est au pouvoir depuis 2010. Il a été au pouvoir aussi des années 2000. Il gouverne avec l'appui du Jobbik, un mouvement d'extrême droite, qui l'appuie dans toutes ses très gentilles et agréables lois. On peut le mettre dans le club des dirigeants autoritaires et populistes comme Poutine, Erdogan, Bolsonaro, Netanyahou, tous ceux dont on parle souvent.
Et Tutti Quanti,
malheureusement, il y en a beaucoup trop. Promoteur d'une Europe chrétienne de la famille traditionnelle, il combat les médias indépendants, muselle la justice, criminalise les ONG, interdit même l'itinérance. Il y a une loi anti-itinérance en Hongrie. Bien sûr, il est contre l'immigration. Il s'est distingué par la fermeture de sa frontière et pour ses renvois massifs et violents depuis la crise des migrants en 2015. Et ça continue d'ailleurs toujours. Au début de la pandémie, il s'octroie des pouvoirs d'exception pour gérer la crise et en profite pour discriminer encore plus sa cible favorite, les communautés LGBTQ, en interdisant la reconnaissance juridique et le changement d'état civil pour les personnes trans. D'ailleurs, cette semaine, Marie-Ève, je suis dans l'actualité chaude, autre loi votée, celle interdisant la promotion de l'homosexualité auprès des mineurs, comme en Russie. Le même genre de loi, exactement. La semaine passée, il a appuyé les supporters hongrois qui ont hué les joueurs irlandais qui ont posé un genou à terre en appui à la lutte contre le racisme dans un match à Budapest lors de l'Euro. Et finalement, le mois dernier, le Portugal, qui préside le Conseil de l'Europe, a continué les procédures contre la Hongrie et la Pologne, qui sont jumeaux presque identiques, à peu près les mêmes partis, les mêmes politiques, pour violation des valeurs européennes, ce qui peut mener à des sanctions, voire l'exclusion. Donc, il continue à faire son spectacle. Il est en élection législative à l'automne, et c'est pour ça qu'il passe des lois super répressives actuellement pour se faire élire auprès de sa base et de l'extrême droite.
Ce serait peut-être intéressant de voir, parce qu'on, tu sais, ce fait pas la première fois qu'on parle de la Hongrie, justement, parce qu'à cause de toutes ces frasques, mais d'essayer de parler un peu plus des groupes qui luttent sur en Hongrie, tu sais, contre le gouvernement. On n'a pas souvent abordé ça. Peut-être ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait faire dans les mois qui viennent, Simon.
En Hongrie, en Pologne, en Autriche, maintenant, dans toute l'Europe centrale, finalement, c'est assez intense, là, l'extrême droite.
Oui, les nationalistes catholiques conservateurs. Puis d'ailleurs, les ONG ou les organisations, les associations qui distribuaient de l'information, de la nourriture aux migrants ont été criminalisées ou arrêtées. Fait qu'on pourrait faire un topo là-dessus, tout à fait.
On pourrait rappeler l'eurodéputé homophobe qui faisait des orgies à Bruxelles, mais
on n'ira pas là.
J'y ai pensé, mais bon.
Toi, Simon, ta région, pays marquant, dont je me doute un peu.
Ben, on change complètement d'atmosphère, de continent. On s'en va en Afrique subsaharienne pour la complexité du continent africain, pour tout ce qui s'y passe et surtout pour les très nombreuses vagues migratoires dans toutes les directions à chaque année. Quelques exemples, le président de l'Éthiopie qui envoie ses troupes occuper le Tigré, une région de son propre pays. La République centrafricaine et ses dizaines de groupes rebelles pro ou anti-gouvernementaux. Le Mozambique qui est pogné avec des groupes djihadistes, comme on voit au Nigeria, entre autres, au Burkina Faso, au Mali. Des pays gouvernés par des tyrans souvent très vieux, on dirait qu'ils ont 185 ans, comme en Gambie, et pourquoi pas le Swaziland, on n'en parle pas souvent, mais il faudrait qu'on vous parle de ce minuscule royaume avec un monarque absolu un jour.
Ça doit être vrai, c'est ça. Où il fait bon vivre.
C'est le dernier souverain absolu, je pense, de la planète, là, ou quelque chose comme ça. Des famines, des sécheresses, des invasions de sauterelles qui mangent toutes les récoltes, comme on a vu en 2020 au Kenya ou en Ouganda. Des pays comme l'Ouganda, justement, ou le Soudan, qui sont parmi les pays au monde qui reçoivent le plus de réfugiés. Soudan, qui, paradoxalement, est aussi dans le top mondial des pays d'où proviennent le plus de réfugiés. Donc, quand je vous disais que ça allait dans toutes les directions. 6 pays subsahariens sont dans le top 10 mondial des pays qui accueillent le plus de... d'où proviennent le plus de réfugiés. Donc, Soudan, Sud-Soudan, Érythrée, Centrafrique, République du Congo et Somalie. À travers tout ça, de l'humanitaire, des ONG de toutes les sortes imaginables, évangélistes, hippies, trotskistes, colonialistes, des casques bleus, les armées françaises, canadiennes, belges, russes, chinoises, des agences de sécurité privée, des enfants soldats, des milliards françaises, canadiennes, Total, SNC-Lavalin, name it, tout est là.
Quel bel héritage de la colonisation, hein?
Ah, c'est pas fini la colonisation.
Tout le monde est là, hein? Tout le monde est... c'est le party, hein?
Ouais, tout le monde s'arrache un petit bout de minerais rares, là, pour fabriquer des téléphones. Bref, on s'était donné une catégorie pays ou régions marquantes pour notre 50e édition, alors j'ai saisi la balle au bon parce que L'Afrique, surtout subsaharienne, c'est un mot qu'on a souvent de la difficulté. Là. Selon moi, c'est cruellement sous-représenté dans les fils d'actualité, malgré tout ce qui se passe.
Ouais. Puis il y a beaucoup de pays, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de régimes différents, il y a beaucoup de conflits, et il y a, comme tu dis, tous les pays étrangers, les Chinois sont là, les Russes sont là, tout le monde est là. Tout le monde est là, fait qu'il se passe plein d'enjeux politiques, sociaux, économiques. Et c'est quand même le continent de l'avenir, parce que c'est le continent qui va avoir la population qui
la plus jeune.
La plus jeune et qui va augmenter le plus dans les prochaines années. Oui.
Ouais, le Nigeria est rendu à presque 300 millions d'habitants, je pense.
Merci. De mon côté, sans grande surprise, c'est la Méditerranée qui a le plus retenu mon attention. Je cite ici l'OIM, l'Organisation internationale des migrations. La Méditerranée est depuis plusieurs années la voie maritime la plus meurtrière au monde pour les réfugiés et les migrants, avec un taux de mortalité qui a fortement augmenté. Selon l'OIM, il y a plus de 1200 personnes qui ont péri en 2020 en tentant la traversée, dont la grande majorité en empruntant la route de la Méditerranée centrale, c'est-à-dire principalement au départ de la Libye. Ça, on vous en a parlé à quelques reprises aussi. Selon Vincent Cochetel, envoyé spécial pour la Méditerranée centrale de l'agence onusienne chargée des réfugiés, les départs des côtes libyennes ont augmenté de 290%. Soit un peu plus de 6600 tentatives là entre surtout les premiers mois là de 2020. Pour 2021, les chiffres les plus à jour que j'ai pu trouver datent du début mai et font état de plus de 600 morts dans la Méditerranée. Et là aussi, la grande majorité, c'est-à-dire 488 personnes, sont mortes sur la route au départ de la Libye, et dont ces 488-là dans un seul naufrage qui a eu lieu en avril.
On avait parlé d'ailleurs, oui.
Toujours selon l'OIM, au cours des près de 4 premiers mois de 2021, il y a près de 17 000 migrants et réfugiés qui sont entrés en Europe par la mer, ce qui représente une hausse de 16% par rapport à la même période l'an dernier. Près de la moitié des arrivées ont eu lieu en Grèce, principale destination cette année à date. À titre de comparaison, toujours selon l'OIM, un peu plus de 1800 personnes ont péri en Méditerranée ou ont été portées disparues en 2019. En 2018, c'était 2300. Donc, de façon générale, même si le nombre annuel de décès a diminué chaque année depuis 2016, en fait, l'OIM attire toutefois notre attention sur le fait que la proportion de décès par rapport aux tentatives de traversée augmente en Méditerranée. C'est pour ça qu'ils disent que c'est vraiment le lieu le plus dangereux. Si le nombre de victimes diminue, c'est surtout parce que les gens prennent désormais d'autres routes aussi de passage. Par exemple, on vous en a déjà parlé, en 2020, il y a un peu plus de 2000 personnes qui ont péri en tentant de gagner l'Espagne depuis l'Afrique, surtout vers l'archipel des Canaries. C'est plus qu'en 2019 où on recensait moins de 900 décès. Donc c'est ça, la Méditerranée reste quand même un lieu de transit migratoire à surveiller.
Oui, puis ben, on n'a pas parlé, je pense, de Chypre cette année aussi, où est-ce qu'il y a beaucoup de migrants, c'est dans la Méditerranée, Chypre, et il y a beaucoup de migrants qui sont arrivés par là, puis ils ont mis des clôtures entre la partie grecque et turque, ça a fait un bordel là-bas, donc il y a des migrants qui sont arrivés à Chypre aussi, il y a en Crète aussi, moi j'ai entendu parler de la route de la Roumanie maintenant, pour contourner la Hongrie, la Slovénie, donc ça se développe et c'est complexe, et Simon nous a parlé beaucoup de la Libye aussi cette année,
Ouais, qui est encore le lieu principal d'embarquement.
C'est ça, comme je disais,
Ouais, mais Tunisie, Maroc, Algérie, ouais.
Fait qu'on va voir comment tout ça, il y avait la Manche aussi pour... c'est ça. Donc, écoutez, après ce bloc un peu dramatique, là... on va essayer de se remonter le moral si on peut en écoutant Flavia Coelho, cette chanteuse d'origine brésilienne désormais établie en France, et sa pièce Bonne Nouvelle parue en 2020 en plein début de pandémie. Je pense qu'elle essayait de nous remonter le moral aussi pour l'été qui allait suivre.
Ça a marché quand même.
Quand même, oui.
Le boss a parlé, paraît qu'il faut pas bouger. Le prix du plaisir n'arrête pas d'augmenter. Mais Mon crush est enfin disponible à câliner. Et ça c'est, et ça c'est, et ça c'est la bonne nouvelle. La fête a coupé court mais c'était imposé. Comme une galère on était bien posé. Mais on va rester enfermé, pas isolé. Et ça c'est, et ça c'est, et ça c'est la bonne nouvelle. J'ai vu cette année, y'a du soleil en plein hiver. On va rester à la maison pour le dessert. Mais en petit comité, la capi remplit mon verre. Et ça c'est, et ça c'est, et ça c'est la bonne nouvelle. 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 J'étais trop basané. La même balala depuis des années. Mais désignant con ele na tua tia, ele deixa entrar. Com meu look de marca vestida para atacar. On a trop abusé, atmosphère bousillée. C'est pas des mots pour faire beau, c'est pas des clichés. Mais dans ta tête qu'il est fait des serres, on peut le baiser. Et ça c'est, et ça c'est, et ça c'est la bonne nouvelle. La vie ne va pas s'arrêter, on peut continuer. Tous les bails, les problèmes, on va surmonter. Mais, mano du bango, ils sont mal, ça nous font danser. Et ça c'est, et ça c'est, et ça c'est la bonne nouvelle. 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 Bona ki bonana, bona ki bonana, bona ki bonana, bona ki bonana, bona ki bonana. Et ça c'est la bonne nouvelle. 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 C'est la bonne nouvelle.
Bonne nouvelle de Flavia Coelho. Je mets quiconque au défi de ne pas danser en écoutant cette pièce.
Personne n'a réussi le défi ici.
Peut-être un peu Mathieu, il a un peu réussi, lui.
Quelle insensibilité.
Vous écoutez toujours les attaqués d'anonymes. au cours de nos deux années sur les ondes de choc.ca, on a reçu une vingtaine d'invités de différents horizons, soit pour nous parler d'enjeux d'actualité, parfois sous forme de billets d'humour aussi, ou encore pour parler de campagne ou de lutte spécifique. On a hâte que ça recommence d'ailleurs à avoir des invités en studio. Les derniers entretiens sont faits au téléphone.
Oui, oui, tout à fait. Oui.
Donc, une de ces luttes-là, c'est celle menée contre la construction de la nouvelle prison pour personnes migrantes à Laval au coût de 56 millions de dollars et pouvant contenir jusqu'à 158 personnes. L'actuel centre de surveillance de l'immigration, c'est son nom, est une ancienne prison construite en 1950 et convertie en 96 et peut contenir entre 109 et 144 personnes. La construction de ce centre-là devait être achevée pour 2021, mais j'ai eu beau chercher et chercher partout, je n'ai trouvé aucune information à jour sur l'avancement des travaux ou même l'ouverture d'un quelconque nouveau centre. Les informations les plus récentes que je réussis à trouver, c'est genre début 2020, même pas en 2019.
Ben, je pense qu'elle n'est pas finie de construire, c'est clair.
Je pense pas. Ça a dû prendre du retard à cause de la pandémie aussi, puis tout ça. Puis
les mobilisations aussi. Puis,
c'est ça. Donc, ouais. En mars dernier, le 24 mars, 2019, on avait reçu Camille de Solidarité sans frontières pour nous parler de cette campagne-là pour faire stopper la construction du nouveau centre de détention. Et voici ce qu'elle avait à nous dire sur les raisons de s'opposer à un tel projet.
Je pense que plutôt que construire deux nouveaux centres, parce que comme tu l'as dit tantôt, il y a le centre pour à de Laval, puis il y a le centre à Surrey en Colombie-Britannique, ouais, qui va ouvrir là. Alors, je pense qu'on devrait utiliser cet argent-là pour régulariser le statut des personnes, puis les accueillir comme il faut, en fait. On essaie avec ce projet, c'est un projet de PR, c'est un projet de relations publiques, c'est d'image. On essaie de nous vendre une prison, un lieu qui va être beau, qui va être un lieu, qui va être un lieu d'hébergement, mais plus écolo, avec LEED, machin, certification LEED, mais dans les faits, c'est une prison et ça va avoir les mêmes buts qu'elle sert, que celle-là de Laval sert actuellement, c'est-à-dire d'immobiliser les personnes en vue de les déporter, des personnes qui dans notre système actuel de citoyenneté à deux vitesses, c'est ça, la citoyenneté, c'est, il y en a on est avec la bonne, puis il y a des personnes qui naissent avec pas la bonne, puis c'est des gens aussi qui quittent leur pays, tu sais, qui fuient leur pays, qui ont été forcés aussi de quitter pour des conditions par rapport avec des conditions qui ont été créées parfois même par les pays comme le Canada, tu sais, avec leur politique économique, ouais, les intérêts qu'ils poursuivent économiques, politiques, tu sais.
Avec le réchauffement climatique.
Exactement,
aussi,
on risque exactement,
d'avoir des vagues,
exactement,
de migration,
exactement,
environnementale, mm-hmm, de plus.
Donc, moi, je pense que c'est pour ça. Puis, de toute façon, exactement. Puis, moi, Solidarité, on a des revendications claires. T'sais, on est contre les détentions, contre les déportations.
C'est clair, hein? C'est très clair. C'est beaucoup de contenu.
Puis en mars dernier, ben devant une autre éclosion de, tu l'as mentionné un peu
tantôt, oui,
rapidement tantôt, Mathieu, en mars dernier, devant une xème éclosion de COVID-19, les prisonniers qui se trouvent dans l'actuel centre de détention à Laval ont entamé leur quatrième grève de la faim en moins d'un an pour protester contre des conditions de détention inhumaines. Alors, toi, Simon, quel invité ou entrevue t'a marqué plus particulièrement?
Ben, je suis pas allé très loin. Je veux dire, c'était comme une évidence pour moi. C'est Will Prosper,
ouais,
qui est comme un super invité. On l'a reçu en studio en janvier 2020. Juste souligner, Camille, c'est lors de, qu'on vient d'entendre, c'est lors de notre toute première émission.
C'est vrai, ouais, tu as tout à fait raison.
Ça ne nous rajeunit pas. Bref, c'est ça, on avait reçu Will Prosper en janvier 2020. Marie-Ève était malheureusement absente. Je crois qu'elle était en France.
À Paris.
c'est même pas une joke. On avait réussi à booker Will Prosper non sans difficulté parce qu'il était vraiment sollicité. En plein rush promotionnel de son excellent documentaire « Kembela jusqu'à la victoire », qui gagnait des prix, donc on s'arrachait Will Prosper de partout. Donc, je l'avais interviewé une première partie sur son film et sur Haïti principalement. Ensuite, Mathieu prenait le relais pour une entrevue de fond sur l'actualité politique sociale, un portrait plus général de l'état des lieux sur les questions de racisme, d'islamophobie au Québec. Et c'est là qu'on réalise à quel point Will Prosper a une analyse très pertinente, percutante, une connaissance assez fine de ces dossiers-là. Donc vraiment, un invité en or, on lance sur un sujet et il est parti. Par exemple, avec cette question peut-être un peu générale de Mathieu, qui fait légèrement ressortir un côté slameur inconscient chez Will Prosper. Donc, on écoute ça.
Avec tout ce qui se passe depuis 2-3 ans au niveau du racisme systémique, les discussions sur le profilage racial, sur la prise de conscience, ou en tout cas la prise de parole des Autochtones au niveau du colonialisme, la loi 21, la loi 9, tout ça, qu'est-ce que tu pourrais dire en ce moment, après 2-3 ans de débat? Comment tu trouves l'état des lieux de ce débat-là, de ces débats-là?
Ah, quelle question, hein?
Comment on
trouve l'état des lieux? J'aimerais dire qu'on progresse bien, on s'en va vers la bonne direction, puis on reconnaît justement ce que les gens ont mentionné. Les inégalités que ces personnes-là subissent, toutes les injustices et ainsi de suite, le racisme, le sexe, ben, aussi la transphobie, on peut rajouter des choses comme ça.
Ouais.
Mais j'ai l'impression que ce discours-là est pas facile à avoir parce que quand on parle de racisme systémique, ben, il y a encore une grande présence médiatique qui est couverte par des gens qui sont encore dans ce déni-là. Et moi, c'est ce déni-là qui me fait pas mal. Je regarde des collègues, des fois, qui faisaient partie de Black Lives Matter Toronto, OK? Mm-hmm. Puis t'avais le maire de Toronto, que je suis pas un fan du maire de Toronto, chose parce que j'essaie de dire, qui parlait de racisme anti-noir dans sa conférence, puis les gens de Black Lives Matter étaient bouh parce qu'ils trouvaient que c'était pas assez, tu sais. Mais aussi il y avait eu un autre incident qui s'était produit, et quand je regarde ça, je me dis, moi j'étais assis dans la salle, puis je me disais, j'ai jamais entendu un seul politicien au Québec mentionner quelque chose de la sorte. Et je me dis qu'on est à des années-lumière d'avoir ce type de conversation là parce que souvent, qu'est-ce qui arrive, puis on le voit avec le terme féminicide particulièrement maintenant, quand on utilise la culture du viol, racisme systémique, on se braque sur les mots au lieu de comprendre comment ils...
Ouais, c'est ça, ça fait date un peu. La console est faite comme ça, mais au lieu de se concentrer sur les mots M-A-U-X, puis... voilà, c'était mon choix.
Ben, c'est beaucoup d'actualité encore, tout ce qui
c'est
est raconté.
C'est fou,
hein.
C'est ça.
On voit que ça évolue beaucoup, hein. Ça date d'il y a plus qu'un an, là.
Très intéressant. Donc, Will Prosper, on le réinvitera une bonne fois aussi pour commenter l'actualité.
Ouais. Et toi, Mathieu, ton invité...
Mon invité, c'était le 12 mars 2020, donc notre dernière émission avec une invitée avant le confinement à Choc, entre autres. C'était Fabienne Présenté de Voix juive indépendante. Je vous ai souvent parlé du conflit israélo-palestinien que je considère comme un des symboles forts des luttes antiracistes, anticoloniales et anti-impérialistes. Complexe comme conflit, et ça vaut la peine de le creuser pour en tirer une analyse le plus juste possible. Et c'est pourquoi c'est intéressant de recevoir des militants, militantes, entre autres juifs solidaires, des palestiniens, palestiniennes, parce qu'il y en a beaucoup. On les entend peu dans les médias. Il y en a en Israël, il y en a aux États-Unis, il y en a en Europe, au Canada, il y en a partout. Et Fabienne Présenté de Voix juive indépendante nous a parlé d'une controversée définition de l'antisémitisme. Et c'était fort instructif. C'était un peu technique, mais on a vraiment appris beaucoup de choses. Donc on écoute un extrait. Qu'est-ce qui est le problème avec cette nouvelle définition de l'antisémitisme?
Ben, c'est une définition qui a pour but, si on peut dire, on va aller très très rapidement, qui a pour but de vraiment censurer toute critique de l'État d'Israël, critique des politiques israéliennes, et aussi de censurer tout appui aux Palestiniens. Autrement dit, ce n'est pas vraiment une définition qui a un focus sur l'antisémitisme, parce que si vraiment c'était le cas, on ferait pas comme on fait dans cette définition, qui est de rendre l'antisémitisme, ce que je dirais, extra-historique. Donc, on ne fait pas partie des autres racismes dans le monde. Ce qui, pour Voix juive, est extrêmement important, c'est qu'on remet justement le racisme anti-juif parmi toutes les autres formes de racisme. Cette définition est quand même elle est quand même dangereuse dans le mesure où c'est une campagne menée par des intérêts donc pro-israéliens qui tentent vraiment de fermer, d'interdire.
Donc, d'interdire tout débat sur cette question-là. Ouais. Et on l'a vu encore récemment, ce qui est passé à Gaza et à Jérusalem-Est, en Cisjordanie occupée, les manifs au Canada un peu partout et les débats.
Tout le discours aussi autour de la campagne BDS. Là, tu sais, boycott des investissements, sanctions.
Qu'on veut criminaliser, qu'on veut associer à du racisme. Et ironie de l'actualité, Marie-Ève, le 4 juin dernier, là, il y a une dizaine de jours, Québec solidaire a rejeté une motion non contraignante à l'Assemblée nationale du Québec qui aurait adopté le langage de la définition de la fameuse de l'antisémitisme de l'Alliance internationale de commémoration de l'Holocauste, c'est ça le nom de l'organisation ou de la définition. Et c'est le demi-ministre responsable de la lutte contre le racisme, Benoît Charrette, qui avait présenté cette résolution. C'est que ça a été bloqué par Québec solidaire le 4 juin. Et le 10 juin, le gouvernement de la CAQ, en grand démocrate, a adopté unilatéralement la définition. Avec une autre motion qui était contraignante, celle-ci, donc, a été votée à majorité à l'Assemblée nationale. Donc, le combat de Voix juive indépendante, entre autres, c'est d'empêcher que cette résolution-là, que cette définition-là soit adoptée partout au Canada. Le fédéral a déjà adopté. La Ville de Montréal, ça a été bloqué. Et, évidemment, ils ont été très outrés, eux et les autres groupes, de la décision de la CAQ de le faire démocratiquement, entre guillemets. Et après ça, de l'adopter de leur côté parce qu'ils sont majoritaires.
Donc,
Donc la CAQ, quand il s'agit de racisme, ils font vraiment tout le contraire de ce qu'ils devraient faire.
Tout à l'envers. C'est ça. Des champions.
Eh bien, on va se retrouver un petit pont musical et on retournera dans ce monde tout à l'envers dans quelques secondes. toujours dans cette rétrospective de nos deux années d'existence, les Apatrides Anonymes sur les ondes de choc.ca, 50e émission. On a décidé de faire un bloc, un segment spécialement dédié aux questions autochtones. L'actualité a tellement été foisonnante depuis comme... depuis récemment, mais aussi tu sais depuis comme les deux dernières années, qu'on s'est dit que ça valait vraiment le coup d'accorder vraiment l'attention que ces questions-là méritent. C'est des questions qu'on aborde quand même relativement souvent à l'émission.
Beaucoup plus qu'à nos débuts, je dirais.
Beaucoup plus qu'à nos débuts, mais je pense que c'est aussi à l'image de la place que les enjeux autochtones prennent dans les médias en général de plus en plus. On peut citer, par exemple, bon, Radio-Canada. Là, je veux pas faire de la promotion de Radio-Canada, mais c'est quand même un peu ça que je vais faire.
C'est Monique Giroux.
Non, mais tu sais, c'est parce que maintenant, il y a Espace Autochtone, tu sais, qui existe, puis qui est vraiment une source intarissable d'informations et de nouvelles fraîches.
Très bien fait, moi je suis d'accord avec toi.
Sur tous les fronts. Ils font des sections spéciales sur des dossiers spéciaux sur des enjeux spécifiques, par exemple, entourant là, la découverte des 200 quelques corps d'enfants autochtones. 215 autochtones, enfants autochtones à Kamloops. Ils ont fait un dossier spécial sur les pensionnats au Canada, etc. Mais aussi on voit dans les arts visuels aussi les autochtones, les cultures autochtones sont de plus en plus présentes. Par exemple à Montréal, il y a le premier centre d'artistes autogéré qui a ouvert dernièrement, le centre Daphné. En musique aussi, c'est une scène qui est de plus en plus vivante, à laquelle on consacre de plus en plus de temps d'antenne aussi à la radio. Dans les spectacles. Donc, je dirais que peut-être ce qui manque un peu, c'est au théâtre, où là, au niveau des arts, en tout cas, il y a peut-être un manque, là, une place à prendre, mais à nous aussi de la laisser, cette place-là. Là. Et
à nommer des décideurs sur les conseils d'administration, des programmateurs aussi pour...
dans
pour
les théâtres et dans
un blanc dans décide, les lieux on culturels. Va mettre une petite place, mais que à la base, à la source des créations, des programmations aussi. Ce soit
effectivement.
Là.
Puis peut-être un appel aussi à enfin faire, là il y a le 21 juin qui s'en vient, c'est-à-dire le solstice, c'est les célébrations du solstice que nombre de comme la grande, très grande majorité des nations autochtones célèbrent, ce serait bien d'en faire une fête nationale
Le 22 juin
et férié.
Le 22 juin, c'est la journée nationale des peuples autochtones aussi, qui n'est pas un férié, mais qui est une journée le lendemain du solstice,
ben,
qui est célébrée quand même au Canada avec des manifs autant que du culturel.
Ben, Mathieu, vas-y, prends le micro. Toi d'abord, ton enjeu autochtone ou tes enjeux autochtones.
Ben oui, je vais prendre le micro. Le son est bon, Simon, ça va?
Parfait, vas-y.
OK. Justement, je vais parler de lutte, de mobilisation, de combat, des luttes territoriales, les luttes pour les droits ancestraux, les luttes pour les ressources. Donc, trois luttes à plus ou moins d'importance égale dont on a parlé, entre autres, dans la dernière année et demie. Évidemment, Nouvelle-Écosse, la saga de la pêche aux morts dans la baie Sainte-Marie, on en a parlé à quelques reprises, les médias en ont parlé aussi. Ça a débuté pour la dernière fois en septembre 2020 pour les 21 ans de l'arrêt Marshall de la Cour suprême qui validait les anciens traités sur la pêche de subsistance convenable, hein, un terme qu'on a appris à apprendre. Il y a eu de la violence des pêcheurs blancs contre les Mi'kmaq de Sipiknikatik qui ont fait leur propre pêche et une inaction assez généralisée de la GRC en réaction à ces violences-là. Le fédéral a décidé en mars dernier, donc, d'obliger les pêcheurs autochtones à pêcher à l'intérieur de la saison réglementée, en faisant fi de l'arrêt Marshall et des traités. Donc, plusieurs recours judiciaires ont été lancés. On va se retrouver encore une fois en Cour suprême dans quelques années. Et la prochaine saison de pêche aux morts est dans bientôt, donc j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer, parce que les Autochtones, les Mi'kmaq, ont décidé de la faire quand même en dehors de la saison réglementée. Donc, à suivre. Calédonia, près d'Hamilton, j'en ai parlé aussi en 2006, c'est une vieille histoire, un projet immobilier qui a finalement été abandonné après des mois de confrontation entre les défenseurs du territoire et l'OPP, l'Ontario Provincial Police. Rebelote en juillet 2000, occupation d'un terrain chantier par des membres des Six Nations de la rivière Grant, le fameux Landback Lane dont je parlais tantôt. Injonction, barricade, violence policière, arrestation. ça recommence aussi en octobre avec d'autres injonctions, d'autres interventions. Et depuis, ça bouge pas. Il occupe toujours les lieux. Il bloque un chantier immobilier, un projet immobilier sur des territoires qu'il revendique. Au total, des dizaines d'arrestations et d'accusations, donc une grosse criminalisation des militants autochtones. Militants autochtones, c'est parmi les plus criminalisés en général au Canada. Et là aussi, plusieurs décisions judiciaires en attente dans les prochains mois sur les revendications territoriales des Haudenosaunee, qui font partie des Mohawks. Donc, Calédonia, qui est vraiment aussi un épicentre au Canada des luttes depuis longtemps. Et en terminant, ben, une petite nouvelle sympathique, un gain. La Vérendrye, le parc, la réserve faunique La Vérendrye. L'automne dernier, il y avait eu des tensions entre les communautés locales et les chasseurs. Des barrages avaient été érigés par des membres des Nations Anishinaabe, préoccupés par le déclin de la population d'Origno. Ben, au début du mois, ce mois-ci, au mois de juin, une entente cadre de 4 ans est survenue entre le gouvernement du Québec et les communautés Anishinaabe de l'Outaouais et de l'Abitibi, qui comprend l'interdiction de chasser l'orignal dans la réserve en 2021 et 2022. Et des études sur la gestion de la ressource et la préservation du cheptel sont prévues pendant cette période. Donc, un gain quand même après des mobilisations. C'est rare. Oui. La CEPAC, le gouvernement, le ministère de la Faune a plié. Bon, c'est pour 2 ans. On verra ce qui se passera. Puis les ZEC et les périns privés, ils peuvent continuer la chasse, mais pas la réserve de faunique. Mais c'est un gain quand même intéressant pour ces populations très isolées et très pauvres et très, très marquées par l'histoire, les Anishinaabe de l'Abitibi de l'Outaouais. Ouais. Donc, c'est quand même intéressant. Voilà.
Toi, Simon?
Ben moi, je trouve que vous avez bien résumé, Marie-Ève, sur la prise de parole, la présence de plus en plus... présente. Hein, ça,
en tout cas, de plus en plus importante.
C'est ça. Puis Mathieu, plus sur les revendications plus terrain ou...
territorial. Ouais.
Territorial ou sur des droits...
sur les ressources.
Exactement. Donc, j'en profite pour sortir un peu du Canada, tu sais, pour faire un parallèle avec ce qui se passe ailleurs, avec le même modèle colonial qui se reproduit partout de la même façon depuis des siècles, souvent à cause d'entreprises extractivistes canadiennes. Des fois. Donc, on se contente pas de se comporter en colon ici, mais on contribue à perpétuer le modèle colonial, entre autres au Chili, au Mexique, en Colombie. Pas tant au Brésil, où je veux vous amener pour ce qui concerne les entreprises canadiennes, mais je ne pouvais pas passer sous silence un de nos préférés, c'est Jair Bolsonaro, président brésilien depuis janvier 2019, donc grand nostalgique de la dictature militaire. Plus tôt dans l'émission, on parlait de personnalités marquantes, ben Bolsonaro et à part Trudeau, Trump et Macron, je crois que c'est le chef d'État dont on a le plus parlé. Peut-être ex aequo avec Viktor Orban, dont Mathieu a parlé tantôt aussi en Hongrie. Mais Bolsonaro, ça vaut la peine de le mentionner dans notre segment autochtone, parce qu'il est farouchement et violemment anti-autochtone, ou anti-indigène, terme qu'on utilise plus souvent au Brésil, responsable de sérieuses violations des droits des peuples indigènes et d'une explosion des invasions et destructions de leur territoire. Milices armées qui vont menacer et tuer dans les communautés locales, destruction accélérée de la forêt amazonienne, souvent par incendie volontaire au profit des entreprises bovines et de la culture du soja, ce qui s'est traduit par une intensification de pollution de toutes sortes qui rendent ce qui a été épargné souvent inhabitable. 674 nouveaux pesticides, dont plusieurs considérés très dangereux, ont été approuvés et utilisés à grande échelle sous son règne. Négligence complète des peuples indigènes dans la gestion de la pandémie. Déclaration raciste à l'appel, remise en question des traités, de l'autonomie des différentes communautés et des frontières des territoires traditionnels. Je pourrais continuer longtemps comme ça. Bolsonaro a vraiment été une catastrophe pour l'ensemble du Brésil, mais plus particulièrement pour les 300 communautés autochtones du pays. Le CIMI, le Conseil indigéniste missionnaire, c'est une organisation héritée de la théologie de la libération et qui œuvre à l'émancipation des Autochtones, a déclaré fin 2019 « Les peuples autochtones affrontent un des moments historiques les plus difficiles depuis l'invasion coloniale du Brésil. » Donc, c'est pas rien. Pour la route, une citation de Bolsonaro lui-même cette fois-ci. Ça a été difficile de choisir parce qu'il y en a vraiment... Il y a un buffet de citations racistes. Non, alors, j'ouvre les guillemets. Quel dommage que la cavalerie brésilienne ne se soit pas montrée aussi efficace que les Américains. Eux, ils ont exterminé leurs Indiens. Fin de la citation. Ah. On se console en se disant que ça peut même être pire
que
ailleurs.
C'est moins pire chez ça.
Oh, mais attention, on a des citations racistes dans le prochain bloc, chez nous. Hein?
Oui, on s'en va vers ça. Mais ici, il y a quand même peut-être plus d'institutions qui protègent les...
Ouais, ouais.
Avant de passer en musique, Simon, puis de te laisser présenter ton choix musical, je voudrais juste rappeler que le mois de juin, c'est le mois Je lis autochtone, c'est-à-dire le mois de la lecture. Je vous invite vraiment à découvrir la littérature autochtone qui est d'une richesse insoupçonnée. Vraiment, il y a même une maison d'édition maintenant qui est dédiée à la littérature autochtone, la maison Ananorak. Donc, voilà. Alors, Simon?
On vous fera des suggestions. On en a déjà fait, mais on en fera plus.
Oui, on a une petite banque pour ça, oui.
Fait, en musique, ben moi, j'ai choisi... Ben, ça nous prenait une pièce autochtone dans cette émission-là, dans cette émission anniversaire, pour toutes les raisons déjà mentionnées. Donc, parmi, on a fait jouer quoi? 200 quelques tunes. J'ai choisi Burn Your Village to the Ground de A Tribe Called Red, qui est un trio autochtone de la région d'Ottawa. Le premier membre est Mohawk, le deuxième est Cayuga et le troisième vient de la Première Nation du lac Nipissing. C'est pas une nouveauté, ça date de 2014, mais on fait pas juste jouer des nouveautés aux apatrides, on pense beaucoup en termes de qualité et de contextualisation. Cette pièce-là, c'est une référence directe au génocide autochtone expliqué par le paradoxe culturel de Thanksgiving. Il y a une urgence, une violence dans ce mix de beats traditionnels et techno. Je dirais qu'on a plus parlé d'enjeux autochtones qu'on a fait jouer de musique autochtone. À part A Tribe Called Red, de mémoire, je me rappelle qu'on a fait jouer du Equal, du Samian et du Elisapi. Donc, on s'engage formellement
à augmenter nos quotas.
Oui, à fouiller aussi cette niche-là, parce qu'en littérature, tu le disais, ça, il y a toute une richesse dans la musique aussi.
Ouais.
Donc, A Tribe Called Red...
Burn your village to the ground. A Tribe Called Red avec la pièce Burn Your Village to the Ground, une autre pièce qui a du beat. On a choisi des tunes avec du beat. En tout cas, à date dans cette émission.
Ça groove.
Ça grouille.
Voici donc venu le temps de la portion peut-être un petit peu plus légère de cette émission spéciale. Les pires citations racistes.
On va appeler ça aigre-doux.
Ouais, ben évidemment, avec la montée des droites extrêmes un peu partout dans le monde, on en a parlé tantôt, c'est pas les exemples qui manquent, malheureusement. Particulièrement ici avec notre cher gouvernement caquiste ou encore avec nos chronies merdeurs, par exemple Denise Bombardier, qui en mars 2019 avait écrit ceci dans le Torchon de Montréal. Les organisateurs des vigiles en mémoire de la tuerie de Christchurch qui dénoncent certains médias islamophobes sont des lance-flammes et des grenades dégoupillées.
Elle parle d'elle-même, hein?
Oui, c'est cela. D'ailleurs, toi aussi, Mathieu, t'as choisi un pseudo-chroniqueur.
Non, pas moi.
Non?
Non.
Moi, oui.
Oui, Simon, oui.
Ben. C'est Simon?
Ben, en fait, il est pas dans l'Empire Poubelle comme celle que tu viens de nommer. Il est au 98.5.
Ah, je vous ai mélangé, mais petit venimeux, c'est de ma faute.
On est tellement pareil. C'est,
mais Luc, vas-y avec ce cher...
Luc Lavoie.
Oui, voilà. Oui,
donc pendant Wet'suwet'en, alors qu'on est dans un bras de fer entre la GRC et des Autochtones de partout au Canada qui défendent des territoires normalement protégés par des traités, ben pour décrire les manifestants, Luc Lavoie a dit « Avec un coup de 45 entre les deux yeux, tu te réveilles, mon homme, ou tu dors longtemps. » Donc, je rappelle qu'on est dans un climat de... vive tension avec racisme ambiant anti-autochtone souvent exacerbé pendant ces moments de crise-là. On n'est pas si loin dans le temps de la crise d'Oka, de Ristigouche ou de la pêche en Nouvelle-Écosse, alors je me garderai une petite gêne. Je comprends même pas que ce genre d'appel direct à la violence et à la mort d'Autochtones soit toléré par les patrons de Luc Lavoie, Cogeco, ou par le CRTC ou même par le directeur des poursuites pénales et criminelles. Voilà mon éditorial.
Puis toi, Mathieu, je pense que ton choix s'est arrêté sur un politicien de la scène fédérale, c'est ça?
Exactement. Écoute,
bon, j'ai rectifié mon...
Oui, t'es très bonne animatrice, très bonne, très bon réflexe. Donc, ben, Simon a nommé tantôt le Bloc québécois qui est un peu dans la mouvance de pas reconnaître le racisme systémique et de faire des amalgames. Pierre-Yves Blanchet, quand même, un ancien gérant d'artiste, on se rappelle, qui avait été visé par des allégations d'agression sexuelle, d'inconduite sexuelle, qui a nié fortement. Mais tout ça pour vous dire qu'en janvier dernier, il est bon pour accuser les autres quand même de son côté. En janvier dernier, il a fait une campagne de salissage contre le nouveau ministre fédéral des Transports qui s'appelle Omar Al-Ghabra. Il a écrit que des questions se posent sur la proximité du ministre avec le mouvement islamiste politique dont il aurait été un dirigeant pendant plusieurs années. Et tout en se gardant de fournir des preuves, il a maintenu ses propos en live, en conférence de presse. Il se pose des questions. Et les informations et sources de Blanchette, c'est que M. Al-Ghabra a dirigé en 2004-2005 la Fédération canado-arabe en tant que bénévole. Et des accusations circulaient sur le web, c'est-à-dire Rebel News, selon laquelle M. Al-Ghabra aurait appuyé l'intention du gouvernement de l'Ontario en 2004 d'instaurer la création de tribunaux islamiques. Fait que ça, c'est les tactiques, entre autres, de Blanchette au fédéral.
Ouais.
Et si j'ai le temps, je peux citer peut-être... une députée actuelle du Bloc, que je nommerai pas parce qu'on la connaît pas de toute façon, elle a déclaré avant d'être élue en 2019 qu'il fallait faire avancer la loi sur la laïcité au Québec pour éviter le pire, soit que dans quelques années, nos filles, petites filles et arrière-petites filles soient obligées de se mettre un voile sur la tête pour aller faire des courses chez IGA sous peine de se voir jeter en prison.
Ah ouais, écoute.
Et
quelle clairvoyance.
dans l'avenir. Hein? Et une candidate du Bloc aussi en 2019 aux élections a partagé un torchon de l'extrême droite française qui dit...
Ah oui.
Ça, c'est pas pire. La consanguinité massive dans la culture musulmane pourrait avoir causé des dommages virtuellement irréversibles au socle génétique musulman, notamment des dégâts majeurs sur leur intelligence, santé mentale ou santé tout court. Et elle s'appelle Lisabelle Nitois. Et elle a été de 2012 à 2014, et attachez-vous, conseillère politique au MIFI, au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration,
boy!
Avant d'être candidate au Bloc. Elle n'a pas été élue en 2019.
Elle avait été nommée par Pauline Marois?
Ou? Non, c'était sous les libéraux. Ben, attention, elle travaille au ministère, là, c'est une fonctionnaire politique. Et donc, le Bloc, ben, c'est des pas bons. Hein?
Ouais, le Bloc au grand complet se mérite un...
C'est le chien de poche de la CAQ à Ottawa, du nationalisme, du nationalisme identitaire, qui prétend défendre les intérêts supérieurs du Québec à Ottawa. Ils font juste relayer le discours de la CAQ à Ottawa. C'est vraiment une coalition de pas bon, de pourri.
Mais voilà, c'est dit.
La loi 21, le projet de loi 96 actuellement sur la langue française, qui pousse à Ottawa, qui, en tout cas, c'est vraiment des chiens de poche.
Moi, je pense que l'image va rester.
C'était l'éditorial de Mathieu Francaire, mesdames et messieurs. Moi aussi, en fait, c'est la scène fédérale qui m'a inspirée. En juin 2019, des propos de la sénatrice Lynn Beyac ont refait surface alors qu'elle vient d'être suspendue sans salaire pour avoir refusé de retirer de son site Internet des lettres racistes décrivant les Autochtones du pays comme étant des êtres paresseux et inaptes. Ces lettres-là avaient été partagées, en fait, à la suite d'un discours... vous allez voir, c'est de pire en pire, là. Ces lettres-là avaient été partagées à la suite d'un discours de Mayim Beyac prononcé en 2018, dans lequel elle disait, et je cite, « Les pensionnats autochtones ont eu des effets positifs dans la vie des enfants autochtones. »
Comme les tuer.
Je pense qu'il n'y a pas de commentaire vraiment à faire là-dessus. Hein.
Et pendant ce temps-là, ben, la sénatrice se présentait comme une défenseure de la liberté d'expression.
Bien sûr.
Et dans son discours de 15 minutes devant ses collègues qui s'apprêtaient à la suspendre là, temporairement, elle avait assimilé sa suspension donc temporaire au cauchemar totalitaire décrit par George Orwell dans son roman dystopique 1984. Et je la cite, « Ce type de peine est totalitaire et étranger à la tradition des nations libres comme le Canada. Les parlementaires n'ont pas vu leur liberté d'expression être menacée de la sorte depuis les événements qui ont conduit à l'adoption de la Déclaration des droits par le Parlement anglais le 16 décembre 1689.
J'avais manqué ce bout-là.
Donc, elle s'inscrit dans l'histoire. C'est un jalon important, cette dame-là.
Non, oui. Mais c'est une popée de cruche vide, elle aussi.
Oui.
Donc, on a dû attendre en 2020, en fait, donc 2 ans plus tard, pour que la sénatrice admette enfin avoir eu tort d'insister pour laisser les fameuses lettres sur son site web, mais elle s'est jamais excusée pour ses propos sur les pensionnats.
Une ex-sénatrice.
Donc, on va évidemment continuer à faire un recueil de ces perles racistes.
À chaque émission, on pourra en dire plusieurs.
Voilà. Alors, on...
Tu t'es fait couper le sifflet, Marianne.
Ben, de toute façon, j'avais rien d'intéressant à dire. C'est ce qui conclut, donc.
Il faut vraiment qu'on s'entende sur des codes visuels, là, je pense. Là.
Mais après les inepties de la sénatrice, elle n'avait plus rien à dire.
Non, c'est ça.
Ouais.
Donc, c'est ce qui conclut cette édition spéciale des Apatrides Anonymes. 50e émission. Ouais, j'aimerais dire merci à l'équipe de choc.ca hein, de nous accorder ce privilège d'être sur les ondes de cette radio communautaire, parce que universitaire pardon, parce que c'est vraiment un privilège d'être sur les ondes, d'être là depuis un peu plus de 2 ans, puis surtout merci d'avoir tenu le fort à l'équipe de choc pendant cette dernière année pas comme les autres, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci aussi à nos fidèles auditeurs et auditrices. On s'efforce chaque 2 semaines de vous proposer un contenu original, parfois exigeant et enrageant, avec bien sûr la petite touche d'humour un peu grinçant qui nous est propre. Mais on espère continuer d'être à la hauteur de vos attentes. Merci à vous, Mathieu et Simon, de faire partie de cette aventure-là.
Merci à toi, Marie-Ève. Évidemment, on est un triangle...
Trio, triangle,
je sais pas.
Un trio vira.
Que si on enlève un point, mais tout s'effondre.
C'est bien dit.
N'est-ce pas?
Je voulais vous dire que À côté de vous, j'apprends. Hein? J'apprends à approfondir des enjeux, à connaître des coins du monde dont on parle peu dans les grands médias. Et c'est vraiment un réel plaisir de coproduire cette émission-là avec vous autres.
Ben, je te dis, Mariette, t'es lancée ce soir.
Plaisir partagé. Ben oui, c'est notre 50e émission, là.
On apprend aussi à connaître des personnages peu fréquentables. Hein?
Peu, oui.
Ce qui nous fait nous apprécier mutuellement encore plus.
Surtout depuis un an et demi.
On vous rappelle que si vous nous écoutez en direct, vous pouvez aussi le faire en balado en vous rendant sur notre page sur le site de choc.ca ou encore sur notre site internet www.apatridesanonymes.info. Vous pouvez aussi nous écrire à apatridesanonymes@commercialresist.ca et nous suivre aussi sur notre page Facebook qu'on alimente régulièrement de nouvelles en lien avec les sujets qu'on aborde à l'émission et qu'on vous invite d'ailleurs à partager. Sur ce, on va se quitter.
Oui, on se...
Les amis.
Prochaine émission le 1er juillet. Hein?
Ah ben, gardons.
Oui, quand même.
OK.
Fête du Canada.
La fête du Canada.
Fête du génocide.
Pardon. On va se quitter en musique avec une formation montréalaise. La formation montréalaise Gaspard, qui se décrit ainsi. Groupe de rock instrumental à la saveur progressive et psychédélique, passionné par l'exploration de paysages musicaux et uniques. On croirait nous décrire?
Tout à fait.
N'est-ce pas? Alors, on va écouter la pièce « Voyage dans un courant d'air » qui est tirée de leur deuxième album intitulé « Vertige » au pluriel, paru à la fin du mois de janvier dernier. Alors, on va se retrouver dans deux semaines, comme tu le dis, Mathieu, le 1er juillet, pour une émission régulière cette fois-ci, mais on va essayer de vous garder encore plein de rebondissements et de...
De surprises.
De surprises.
On aurait été un mois sans nouvelles fraîches, donc ça va... Notre panier est abondant.
Ça va être dense.
Oui.
À défaut de danser, ça va être dense.
On va se battre pour les sujets.
Non, c'est moi.
Et moi.
Bon, ben, bonne soirée à tous et toutes.
Merci, Maria, pour la super animation, puis à bientôt tout le monde.
Bonne soirée.